Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes à l'écoute de ce bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, Radek Yon renonce à son poste de président du parti Affaires Publiques. Un homme de 53 ans est la 31e victime de l'alcool coupé au méthanol et la gestion du parc national de la Choumava contestée. Le président du parti Affaires Publiques, Radek Yon, s'en va. Il a décidé d'abandonner son poste politique et de travailler en tant que journaliste dans le groupe médiatique de l'homme d'affaires tchèque Jaromír Soukup. Il ne renoncera pas cependant à son poste de député, décision qui a suscité déjà de nombreuses critiques. Radek Yon promet de travailler maintenant pour la maison d'édition Empresa Media et de publier des informations sur la corruption et sur le monde politique tchèque que le public a le droit de savoir. Le parti Affaires Publiques devrait quant à lui se choisir un nouveau chef le 5 janvier prochain. Toujours le parti Affaires Publiques qui a décidé ce jeudi d'exclure le député Milan Štiovicek au motif qu'il aurait systématiquement soutenu la coalition gouvernementale et voté à ses côtés à la Chambre basse. Il avait déjà reçu plusieurs avertissements. Le parti Affaires Publiques a participé à la coalition gouvernementale durant un an jusqu'en avril dernier et la condamnation pour corruption de Vid Parta, son chef de l'époque. L'Union internationale pour la protection de la nature, l'UICN, a appelé le gouvernement à faire plus pour protéger la nature dans le parc national de la Choumava, au sud-ouest du pays, et respecter le droit international en matière de protection de l'environnement. Dans le cas contraire, il risquerait de perdre son statut de parc national. Le rapport de l'UICN critique le fait qu'une partie insuffisante du massif forestier soit laissée à l'état naturel. Aujourd'hui, 13% des 68 000 hectares du parc sont épargnés par les activités humaines, un pourcentage qui devrait atteindre 35% à l'horizon 2057. C'est trop peu selon l'UICN, qui s'inquiète régulièrement de la gestion du massif de la Choumava, en particulier d'un projet de loi qui pourrait autoriser de nouvelles activités commerciales en son sein. Économie maintenant, l'État tchèque a accusé un déficit d'un peu plus de 2 milliards d'euros au mois d'octobre, en baisse par rapport aux chiffres de septembre. Le ministère des Finances a annoncé que les revenus liés à la TVA avaient augmenté de façon plus lente que prévu. La coalition gouvernementale de droite au pouvoir mène une politique d'austérité au risque d'une contraction de l'économie afin de pouvoir afficher un déficit budgétaire inférieur à 3% du produit intérieur brut, comme l'exige l'Union européenne. Selon un sondage réalisé pour une agence de conseil financier, les Tchèques en âge de travailler sont très peu à se sentir concernés par l'introduction d'un second pilier au système des retraites, s'ajoutant au système par répartition actuellement existant. Il serait ainsi 8,9% à envisager de placer leur argent auprès de fonds de pension privés, comme devrait le permettre la réforme des retraites que le gouvernement espère être mise en place en janvier prochain. Au contraire, 75% des personnes sondées déclarent ne pas être intéressées par cette mesure très critiqué et le reste ne sait pas encore. Ce sondage devrait donner du grain à moudre aux opposants à ce texte qui considèrent que la coalition gouvernementale opère une privatisation partielle du système des retraites au profit d'une minorité de grandes entreprises. Un homme de 53 ans est mort dans un hôpital de Moravie du Nord dans la nuit de mercredi à jeudi des suites d'une intoxication au méthanol. C'est déjà la 31e victime de l'alcool frelaté mis en vente illégalement en République tchèque. La cause de sa mort doit encore être confirmée par une autopsie. Au cours de ces dernières semaines, la police a réalisé de nombreux progrès dans son effort pour identifier les principaux responsables de cette affaire et pour démanteler le réseau des trafiquants de l'alcool frelaté. La société des transports en commun de Prague a un nouveau directeur. C'est l'ancien manager de la société T-Mobile, Milan Kšištek, qui remplacera au poste du directeur général de la société des transports de Prague, l'ancien directeur Vladimír Lich. Le nouveau chef a été choisi parmi 51 candidats à ce poste. Vladimír Lich a été démis de ses fonctions en août dernier, après avoir initié plusieurs procédures judiciaires concernant des contrats douteux conclus par la société. Du sport et du tennis maintenant, Tomáš Berdych poursuit sa route à l'Open de Paris après avoir battu ce jeudi le Sud-Africain Kevin Anderson en 3-7, 1-6, 6-3, 6-4. Tête de série numéro 5, le Tchèque affrontera pour son 15e quart de finale de la saison le Français Gilles Simon. On finit avec la météo, jeudi fête de tous les Félix selon le calendrier tchèque. Le temps en Tchéquie est pluvieux mais la météo nous promet une amélioration dans la seconde moitié de la journée. Les températures maximales se situent entre 5 et 9 degrés. Vendredi, le ciel sera couvert à nuageux et les températures varieront de 6 à 10 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme, tout de suite avec Guillaume Narguet.
faits et événements en République tchèque. Dobriden, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à notre ami Pierre pour son bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord la décision de l'un des personnages politiques les plus en vue de ces dernières années de revenir à ses premières amours de journaliste, journaliste d'investigation même, ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Rea Radekion. C'est de lui dont il s'agit, va en effet reprendre sa carrière de journaliste parallèlement à celle de député, une décision qui n'a pas manqué de susciter de nombreuses réactions, comme nous l'entendrons dans quelques instants. C'est de culture orientale dont nous parlerons ensuite avec le festival qui se tient pour la 4e année consécutive à Prague et un peu partout en République tchèque. Et puis comme tous les 15 jours, la seconde moitié de notre programme sera consacrée au tourisme. Direction aujourd'hui la Bohême de l'Est et plus précisément la ville de Pardubice. Pardubice, c'est là où se court depuis plus de 100 ans le grand steeplechase, mais pas seulement. C'est ce que vous découvrirez dans la seconde moitié donc de cette émission. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Un journaliste d'investigation très apprécié du public et qui se lance dans une carrière politique parvient en quelques mois aux plus hautes sphères de l'État et décide finalement, à peine 3 ans plus tard, de revenir à ses premières amours. C'est le parcours de Radekion, un des personnages publics les plus controversés dans la République tchèque de ces dernières années. Leader des affaires publiques, ancien parti de la coalition gouvernementale, passé dans l'opposition et ancien ministre de l'Intérieur, Radekion, actuellement député, a choisi de rompre un tabou en annonçant mercredi qu'il reprenait son activité de journaliste. Président de la commission de sécurité à la Chambre des députés, Radekion a régulièrement accès à des informations appelées à rester confidentielles. Membre parallèlement de la commission des immunités parlementaires, il est également confronté aux demandes de la police lorsque celle-ci souhaite qu'un député soit livré à la justice. Autant de données et de dossiers sensibles dont Radekion disposera désormais non seulement en sa qualité d'homme politique mais également en tant que journaliste. Pour le président du syndicat des journalistes, Adam Tcherny, il s'agit là d'un cas de figure tout à fait exceptionnel.
Nous avons déjà vu beaucoup de choses surprenantes dans les médias tchèques et certainement plus encore dans la politique tchèque. Mais il faut bien dire que nous n'avions encore jamais vu une telle combinaison. Radek Yon entend travailler à temps plein à la fois comme journaliste et comme député. Soit il se moque de son employeur, soit il se moque des électeurs.
Dans un communiqué de presse, Radekion a annoncé qu'il allait abandonner ses fonctions de président du parti Affaires publiques, mais pas son mandat de député. Cela ne l'empêchera pas de publier des textes sur ce qu'il appelle, je cite, « la pieuvre mafieuse qui vole l'argent public dans le pays », fin de citation. Ainsi, suite de cette citation, que des informations provenant de la politique tchèque que les gens ont le droit de connaître. Les reportages de Radekion seront publiés par les éditions Empressa Media, propriétaires notamment de l'hebdomadaire Tiden. Ces éditions sont détenues par Jaromír Soukup, un personnage influent du petit monde médiatique tchèque qui avait soutenu le parti Affaires publiques avant les élections législatives en 2010. Suite à cette annonce surprise faite mercredi par Radekion, de nombreuses voix se sont néanmoins élevées pour s'offusquer de ce qu'elles considèrent comme un conflit d'intérêts évident. Le journaliste et écrivain Karel Virgiala estime, lui, qu'il s'agit là également d'un non-respect de la promesse qu'il a tenue en tant que député.
Il est certain qu'il va en retirer un avantage personnel. Radekion peut tirer profit de ce qu'il sait de l'exercice de ses fonctions politiques et il sera pour cela bien mieux payé encore qu'à la Chambre des députés. C'est clairement une violation de la loi.
Selon la loi tchèque, un fonctionnaire ne peut pas compromettre l'intérêt public par l'utilisation de sa position, de ses droits ou des informations obtenues pendant l'exercice de ses fonctions pour en tirer un profit personnel. Or, Radekion a déclaré, je cite, « être persuadé que dans un État démocratique, il ne peut pas exister de force qui empêcherait un homme politique de publier des faits constatés pendant son travail ». Avant d'entrer en politique en 2010, Radek Yon, dont les reportages étaient diffusés par la chaîne de télévision privée Nova, était considéré comme un des meilleurs journalistes d'investigation du pays. Parvenu à la tête du tout nouveau parti Affaires publiques, qui à l'époque avait fait de la lutte contre la corruption le thème central de sa campagne électorale, sa grande popularité et sa réputation de journaliste intègre lui avaient permis d'être élu et de participer activement à la formation de la coalition gouvernementale de Petro Nečas, une coalition dont il était même devenu le vice-président. Mais depuis, ce sont précisément les scandales de corruption qui ont coulé le parti Affaires publiques et avec lui, un Radek Yon qui a non seulement été contraint d'abandonner ses principales fonctions politiques, mais dont la réputation a également été singulièrement entachée. Comme chaque année depuis 4 ans, Prague et plusieurs autres villes de République tchèque se tournent vers l'Orient et ce avec le Festival de la culture orientale qui se déroule du 4 au 8 novembre. Lucie Niemetchkova en est l'initiatrice et Anna Kubichta l'a interrogée.
Lucie Niemetchkova, bonjour.
Bonjour.
Du 4 au 8 novembre se déroule à Prague, Plzeň, Hradec Králové, Liberec, la quatrième édition du Festival de la culture orientale qui s'intitule Nad Prahou Půlměsíc, c'est-à-dire le croissant de lune au-dessus de Prague. C'est déjà donc la quatrième édition de ce festival. Alors j'aimerais commencer par quelque chose qui m'a intéressée comme inauguration du festival. Dès le dimanche 4 novembre, en fait, vous organisez une balade à travers Prague, mais du point de vue arabe.
Oui, le festival est le festival consacré aux cultures orientales, mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les rapports. Les rapports entre les cultures orientales avec les cultures d'Europe, etc. Donc, cette balade est consacrée aux racines, aux traces des Arabes qui ont laissé à Prague. Et nous avons un très très bon guide qui est Sharif Barbour, qui est éditeur, poète, qui a donné d'ailleurs le titre de ce festival.
Donc on ne va pas en dire plus, hein, parce qu'il faut venir, à la balade. Comme à chaque édition, il y a une grande partie du festival qui est consacrée surtout au théâtre. Hein, c'est à la découverte d'auteurs et de comédiens arabes. Hein. Je cite par exemple alors Arezghi Mellal. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qui est-il ? Est-ce qu'il va présenter comme texte ici à Prague ?
Pour moi, c'est l'essentiel de faire venir et de présenter les auteurs qu'on ne connaît pas, les auteurs qui viennent des pays, d'abord avant de l'Afrique et maintenant des pays orientaux, comme on dit. Et Arezghi Mellal, c'est un auteur qui m'attire depuis longtemps. Il vit en Algérie, il est publié souvent en France, il est auteur de théâtre, il est auteur de la littérature, de prose. Notamment, il m'intéresse en tant que l'auteur de théâtre. J'appréciais vraiment beaucoup sa pièce en remontant le Niger. Mais j'ai choisi un autre texte. Le titre de ce texte est Samedi la Révolution. Et il faut dire aussi que ce dernier texte d'Arezghi Mellal, qui est tout frais, il était écrit fin de mois de septembre.
On ne va pas détailler tout le programme parce que malheureusement on n'a pas le temps. J'aimerais mentionner par exemple quand même le dimanche à 19h au théâtre de Kampa un spectacle de théâtre qui s'appelle Makami et qui sont en fait des histoires humoristiques de l'Arabie médiévale hein. Et puis également une exposition qui sera au Rock Café sur une exposition de photos sur l'Arabie Saoudite. Et alors j'aimerais vous demander un petit peu de me parler de la soirée un peu de clôture à Prague qui m'intéresse particulièrement puisque c'est une soirée en fait consacrée au dialogue judéo-arabe.
C'est la première, c'est la soirée que j'aimerais faire depuis longtemps. L'année passée, j'ai commencé à travailler avec Katerina Koltsova de l'Ousta, qui vient d'Ukraine, elle est chanteuse, elle est juive. Et depuis longtemps, je travaille avec Marwan Soleiman, qui vient de Syrie, qui vit en Tchéquie depuis longtemps en tant que Katerina, qui est musicien. Et j'aimerais bien de faire cette soirée des dialogues entre ces deux cultures dont on parle souvent, sont opposites, qui ne s'entendent pas très bien, pour dire que les deux cultures, ils sont très très intéressants et que les idéologies peut-être ne se comprennent pas, mais les gens, ils sont plus faciles, ils se comprennent au contraire très 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 bien.
Voilà, c'était donc Lucie Niemieczkowa qui est l'initiatrice du Festival de la culture orientale qui se déroule du 4 au 8 novembre à Prague et dans plusieurs autres villes de République tchèque. C'est avec elle donc que s'achève ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite consacrée, donc, on l'a dit en début d'émission, comme tous les 15 jours au tourisme. Et aujourd'hui, c'est la ville de Pardubice en Bohême orientale dont nous prenons la direction, puisque c'est là-bas que s'est couru le deuxième week-end d'octobre le grand steeplechase. Pardubice est la destination de cette balade touristique de Radio Prague, aujourd'hui avec Jaroslava Gisubelova.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Situé à 120 km à l'est de Prague, sur la rivière l'Elbe, Pardubice offre un panorama singulier. Les tours d'église, la silhouette du château Renaissance et les frontons de maisons de la cité historique alternent avec les cheminées d'usines pétrochimiques, parmi lesquelles la société Synthesia et sa filiale Explosia, où a été inventé et fabriqué l'explosif sans doute le plus connu dans le monde, le Semtex. À l'entrée de la ville, en arrivant de Prague, nous apercevons le champ de course du grand steeplechase de Pardubice, une course d'obstacles de légende dont le parcours compte parmi les plus difficiles en Europe et aussi parmi les plus anciens. Sa première édition s'est disputée à Pardubice en 1874. De l'autre côté, on remarque le stade Svitkov qui accueille chaque année au mois d'octobre la course de moto sur piste Zlatá Přilba, le casque d'or, qui bénéficie de la plus longue tradition au monde. La première course a été organisée en 1929. Pardubice est également réputé pour son pain d'épices, une spécialité typique dont les origines remontent au XVe siècle et qui est aujourd'hui l'un des produits tchèques classés marque déposée. Nous trouvons une boutique de fabrication artisanale de pain d'épices authentique sur la place centrale, baptisée du nom des seigneurs de Pernstein, qui sont des fondateurs de la cité historique et du château Renaissance de Pardubice. Une excursion sur les lieux avec František Šebek.
Le tournant décisif dans l'histoire de Pardubice se produit au moment où le domaine devient propriété des seigneurs moraves de Pernstein, donc entre les années 1491 et 1560. Il convient de rappeler que l'année 2012 est placée sous le signe de cette puissante famille aristocratique. Wilhelm de Pernstein conçoit la place centrale de Pardubice en tant que centre urbanistique de la ville. À l'origine, les maisons sont construites en pierre dans le style gothique. Des niches de façade sont décorées de motifs figuratifs qui font la particularité de Pardubice. Alignées l'une contre l'autre sur l'ensemble des maisons situées sur la place, ainsi que dans les rues adjacentes, ces niches comportent des motifs composés de figures, de personnages et ceux décrivant des faits historiques en images. On dirait une sorte de leporello.
Ta figurální náplň se trošku měnila, či leporello.
L'autre tournant dans la vie de Pardubice se produit au milieu du XIXe siècle. La construction d'une voie ferrée favorise l'implantation de l'industrie. En peu de temps, Pardubice devient l'une des deux villes les plus industrielles de Bohême orientale.
Po roce 19 začala přetahovaná s milými přáteli v Hradci Králové.
Après 1900 commence la rivalité avec nos chers amis de Hradec Králové, qui dure pratiquement jusqu'à présent. Pendant ces années-là, Pardubice a connu un essor industriel spontané, grâce auquel elle a pu éviter des interventions d'assainissement qui ont marqué l'image de beaucoup d'autres villes industrielles comme Plzeň ou České Budějovice. Grâce à cela, le centre historique de Pardubice est resté intact. À une exception près, l'édifice de la mairie, érigé dans les années 1892-1893 dans le style de néo-renaissance. Cet édifice n'est certainement pas mauvais, mais il ne correspond pas à l'aspect de cette place.
Ça 92-93 pseudo-renesanční stavba, která není špatná, ale prostě se sem nehodí.
Pardubice devient la ville résidentielle de la famille Perstein après que Wilhelm, puissant aristocrate morave, occupe une position importante au sein du royaume de Bohême suite à l'élection du roi Ladislav Jagellon. Pour pouvoir s'installer en Bohême, Wilhelm achète plusieurs domaines dont celui de Pardubice. Le terrain lui a permis d'y développer la pisciculture.
Bohème. 20 let Pernštejnové na Pardubicku vybudovali rybniční soustavu, která byla.
En 20 ans, la famille Pernštejn a réussi à édifier dans la région de Pardubice un réseau d'étangs, l'un des plus importants en Bohême, comptant à titre d'illustration 234 étangs. En le faisant, les Pernštejn ont devancé d'une génération le même effort déployé par les Rogenberg dans le sud de la Bohême. Les systèmes d'étangs et de canaux étaient assez rares à l'époque. Wilhelm de Pernštejn en a tiré des bénéfices énormes.
Soustav rybničních nebylo tolik. To jim přinášelo ohromné zisky.
En 1538, un incendie ravage la cité historique. C'est alors que le fils de Wilhelm, Jan de Pernštejn, procède à une reconstruction complète dans le style Renaissance. Les maisons sont élevées d'un étage et on utilise une nouvelle technologie de construction venue du nord de l'Italie, la terre cuite. De cette époque date la porte verte haute de 60 mètres qui clôt la place. Un atout du noyau historique de Pardubice et qu'il a su sauvegarder ces deux styles d'origine, gothique et renaissance. Un autre atout est son caractère représentatif.
Pour Pardubice, conçu comme une ville résidentielle des Pernštejn au tournant des 15e et 16e siècles, il est symptomatique que vous n'y trouverez pas un élément assez fréquent dans d'autres villes, à savoir les arcades qui convenaient avant tout aux artisans et aux commerçants. Cela est dû au fait qu'à Pardubice, l'accent a été mis sur l'effet des façades. Wilhelm de Pernštejn a procédé à l'édification d'une résidence à la hauteur de ses objectifs de représentation de l'une des familles aristocratiques les plus puissantes de Bohême. Cela explique que Pardubice soit vu comme une ville résidentielle.
Depuis 1964, la cité historique de Pardubice est classée zone protégée. La place historique est reliée au château Renaissance par une large voie bordée de maisons anciennes restaurées. Sur le chemin, nous passons à côté de Příhrádek, comme on appelle la Barbacane, autrefois un ouvrage de fortification avancée devant protéger le passage vers le château. Aujourd'hui, c'est un coin pittoresque de Pardubice avec un café et une librairie et qui sert à l'organisation de toutes sortes de manifestations en plein air. À l'origine, le château disposait d'un pont-levis au-dessus des douves. Au fil du temps, les douves ont été comblées et l'ancien château fort du XIIIe siècle remanié en château Renaissance, ainsi que le raconte František Šebek.
Když jsem ten Pernštejn přišel, koupil malý vodní hrádek.
Au moment où Wilhelm de Pernštejn a racheté à Pardubice un petit château fort entouré de douves, l'ère de ce genre de château fortifié touchait à sa fin au profit des sièges résidentiels plus confortables. Lors des travaux de rénovation de l'ancien château fort, Pernštejn a uni les deux principes en un seul ensemble, en créant un nouveau type de construction à mi-chemin entre le château fort et le palais. Du point de vue architectural, il s'agit d'un ouvrage unique. Nulle part ailleurs en Europe, on ne trouverait ce type de construction dans un état d'entretien aussi bien préservé. Et nulle part ailleurs en Europe, on ne trouverait un complexe occupant un terrain aussi vaste.
Nigde ve střední Evropě nenajdete tenhle ten areál na tak ohromně rozlehlém území.
Le château de Pardubice est unique du fait aussi qu'il documente le passage entre les styles gothique et renaissance. En 1560, il devient propriété du roi de Bohême et ne subit presque plus de restauration, si bien qu'il conserve son authenticité. Sous Rodolphe II, on lui ajoute des arcades renaissance et des décorations en sgraffite. Quant au mobilier, meubles, tapisseries et tableaux, tout a été vendu par la famille Bernstein avant son départ. Plus tard, le château a servi de dépôt. Une restauration complète entreprise dès 1929 par le nouveau propriétaire, l'association du musée de Pardubice, a dévoilé les fragments de fresques renaissance dans les salles de chevalerie.
Bien que cela ne soit que des fragments, il s'agit de l'un des plus précieux ensembles de fresques renaissance en Bohême. Inspirés de l'Antiquité, les artistes ont réalisé des peintures en trompe-l'œil sur le plafond qui font penser à un temple, avec ses colonnes typiques et ses décorations. Les peintures autour des fenêtres évoquent la nature, ce qui est souligné par des ornementations végétales, des guirlandes de fleurs et des percées vers le ciel.
Sur les fresques sont représentées des scènes bibliques, dont celle basée sur l'épisode de la séduction de Samson par Dalila. On doit à Lucas Cranach l'Ancien une peinture sur panneau traitant d'un sujet théologique situé dans la grande salle de chevalerie. Le château de Pardubice est ouvert pendant toute l'année. Des concerts y sont donnés dans les salles de chevalerie et il propose aussi toute une série d'expositions. À l'heure actuelle, c'est une exposition de Vertchez contemporain du 20e et du 21e siècle. Il s'agit d'environ 4000 œuvres originales. Ensuite, ce sont des expositions d'armes, de pièces de monnaie, une exposition de sciences naturelles destinée aux enfants, une exposition de jouets au rez-de-chaussée et une exposition de 30 000 cartes postales au sous-sol du château.
Voilà, et de Pardubice en Bohême de l'Est, on revient dans nos studios pragois pour vous annoncer la fin de ce bloc à actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et merci d'être de nouveau bientôt à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Ahoy.